On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Les jeunes et la violence de couple, c'est le thème de notre guichet, car il n'y a pas d'âge pour vivre de la violence dans ses relations amoureuses, Muriel Meira.
Et non, malheureusement pas. En Suisse romande, certains cantons s'inquiètent de la prévalence de la violence vécue dès les premières relations amoureuses. Sans consentement, c'est non. C'est la campagne lancée en mars de cette année par l'État de Vaud pour sensibiliser les jeunes au risque de violence de couple. Selon Unisanté, parmi les jeunes de 18 ans en couple, 56% déclarent avoir été victimes de violences et ou de surveillance et 11% de violences sexuelles de la part de leur partenaire. Ce sont des chiffres de 2024. Dans le canton de Neuchâtel, en 2018 déjà, une étude pointait ces violences. 60% des adolescents et des adolescentes interrogées témoignaient avoir été victimes d'au moins une forme de violence dans leur relation, que ce soit de la violence physique, psychologique, sexuelle ou numérique.
Donc un guichet qui résonne quand même avec l'actualité, Muriel.
Oui, le 1er juin dernier, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider lançait le deuxième volet de la campagne nationale contre les violences domestiques, sexuelles et de genre, initiée en novembre 2025. Campagne de prévention et de sensibilisation plus que nécessaire. Les sites stopféminicide.ch et contreleséféminicides.ch recensent déjà 12 féminicides depuis le début de l'année. Ce matin, nous allons donc décrypter le phénomène des violences chez les jeunes. Comment se manifestent-elles dans les premières relations? Comment agir si on en est victime? À l'inverse, comment s'assurer que notre comportement n'induit pas de violence? Ou encore, comment entamer le dialogue sur le sujet avec nos enfants? Que vous soyez jeune ou que vous vous inquiétez pour vos jeunes, un seul numéro, le 0800 108 208. Deux spécialistes répondent à vos questions.
Et vous pouvez aussi bien sûr enregistrer un vocal et l'envoyer au 076 206 12 12. On a hâte de vous entendre. Chloé Parra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en santé sexuelle répondante pour Ciao.ch et OnTécoute.ch, donc deux sites dédiés, deux plateformes dédiées aux jeunes. Tout d'abord, est-ce que vous êtes surprise, Chloé Parra, par l'ampleur du phénomène? Parce que naïvement, on pourrait penser que les jeunes sont quand même un peu moins concernés, plus ouverts que leurs aînés, plus à l'écoute de l'autre, hein, plus au fait des questions de harcèlement ou d'égalité de genre.
Malheureusement, pas vraiment surprise de ces chiffres, notamment quand on travaille dans le domaine. Tous les jours, on rencontre des personnes à qui on pose parfois la question du vécu de violence. Mmh. Et puis, beaucoup de gens nous répondent qu'en fait, qu'elles soient passées ou actuelles, ces personnes ont vécu de la violence chez les jeunes ou chez les plus âgés aussi. Dans ma pratique professionnelle, je suis pas particulièrement surprise. On a de plus en plus de chiffres aussi qui font état des violences en couple. C'est des chiffres qui n'existaient pas dans le passé et puis qui commencent à être un peu plus connus maintenant, avec plus d'études aussi. Et c'est aussi révélateur peut-être d'une certaine meilleure prise en compte et puis une meilleure
attention sur le phénomène
aussi,
en tout cas.
Au phénomène. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des formes de violence de couple qui sont spécifiques aux jeunes, Chloé Parra?
Alors les violences de manière générale, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, on les retrouve dans toute la population, chez les plus âgés, chez les plus jeunes, dans toutes les classes sociales. Peut-être ce qui est particulier chez les jeunes, et en particulier les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés avec les réseaux sociaux, les smartphones, c'est justement la présence de ces médias-là et qui sont un moyen différent ou supplémentaire d'exercer la violence. Donc ces moyens-là n'amènent pas une nouvelle violence. Par contre, c'est un moyen différent, supplémentaire, d'exercer de la violence ou de subir de la violence.
Donc on harcèle en permanence. En fait, en plus, ça s'arrête jamais parce qu'on peut tout le temps être en lien avec l'autre via le numérique.
Tout à fait.
Chloé Parra, notre première invitée, et à vos côtés, Alain Léo Pfammater. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en santé sexuelle à la Fondation Profa. Alain Léo Pfammater, à l'adolescence, on est encore en pleine construction émotionnelle. À ce titre, est-ce qu'entamer sa vie amoureuse par des relations violentes, toxiques, peut entraîner des conséquences pour le reste de sa vie amoureuse? Est-ce qu'on va répéter finalement le même schéma, par exemple?
Alors oui, il y a un danger quand on démarre sa sexualité parce que c'est à ce moment-là qu'on va créer ses premiers repères au niveau amoureux. Mmh. Donc dans une relation, on va pouvoir, dans les toutes premières relations, poser finalement les questions de la définition du respect, des limites, comment on communique. Et puis si c'est teinté de violence, eh bien on a le risque de pouvoir banaliser ces comportements-là et de pouvoir les répéter finalement par la suite. Alors il n'y a pas une fatalité, heureusement, par rapport à ça. L'important, c'est de pouvoir réussir à se faire entendre des fois sur ces questions-là ou de réaliser par soi-même que c'est pas normal ce qui se passe. Et puis de briser le silence, de pouvoir parler à un professionnel, à un adulte de confiance et surtout d'être entendu et cru dans ces moments-là. Ça, c'est un point qui est aussi très important. Et puis après, de pouvoir faire le passage vers des professionnels spécialisés sur les questions des violences pour pouvoir entrer en thérapie et pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux.
Mais à partir de quel âge on peut être confronté dans nos premières histoires d'amour à de la violence? Parce que la campagne de l'État de Vaud cible les 16-25 ans, le canton de Neuchâtel parlait d'adolescents. Mais à 12 ans, on est déjà dans l'adolescence.
Oui, alors ça peut arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Tout dépend effectivement du bagage que va avoir le jeune, la jeune. Donc, on peut se retrouver très rapidement. Alors, on ne va pas partir tout de suite sur des questions de coups et de violence, mais il peut y avoir une emprise, un besoin de contrôle, des rapports de jalousie qui peuvent se mettre rapidement en place. Et ça va impliquer qu'il faudra commencer effectivement les notions de consentement et de l'éducation à ces notions-là extrêmement tôt. Et ça, ça va être le travail effectivement des parents de pouvoir assurer pour que leur jeune soit dans des relations qui soient saines avec les autres.
Donc ça, le consentement, on en reparlera plus en détail. Mais Chloé Parra, à partir de quand on peut dire, tiens, il peut y avoir potentiellement de la violence? Est-ce que, par exemple, exiger de lire les messages de mon amoureux, de mon amoureuse, avoir ses codes d'accès à ses réseaux, c'est déjà de la violence?
Oui, bien sûr, c'est en fait des phénomènes de contrôle qui font déjà partie de la violence. Moi, j'aime bien voir la violence comme une pyramide, hein. C'est pas moi qui l'invente, mais on trouve une telle définition de la violence où la pyramide, c'est en fait la violence physique ou les agressions sexuelles.
Tout en haut, donc.
Qui seront tout en haut, à la pointe de la pyramide, qui représentent des violences moins fréquentes. Mais tout en bas de la pyramide, ça commence par le sexisme et, par exemple, hein, quand on parle de violence de genre. Et puis des stéréotypes, des blagues parfois. Et puis juste en dessus, déjà ces comportements de contrôle qui vont plus être de la violence psychologique à ce stade.
Mais ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que pour les jeunes, contrôle et jalousie, bah, c'était pas forcément vu comme problématique. Au contraire, ça pouvait même être valorisé.
Tout à fait. On entend parfois que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Et il y a effectivement une forme de banalisation chez les jeunes, mais de nouveau aussi chez les plus âgés. Et puis c'est une forme de valorisation de ces gestes-là, ou de ces comportements-là plutôt. Hein. Si tu m'aimes, tu ne dois rien me cacher. Mmh. J'ai donc accès à toute ta vie, même à ta géolocalisation.
Et ça, c'est les deux partenaires qui sont sur cette longueur d'onde-là. Ce n'est pas un qui oblige l'autre.
Alors ça dépend, mais parfois c'est même les deux partenaires. Et donc c'est assez difficile parfois de réussir à peut-être... voilà, de démêler en fait tout ça, ouais. Parce que le message qu'on reçoit en face, c'est mais en fait, si on est les deux d'accord, ouais. De se contrôler, c'est que tout va bien.
Une sorte de contrôle mutuel. Alain Léop-Famateur, dans les violences de couple entre adultes, ce sont majoritairement les femmes qui sont les victimes. Est-ce que c'est la même chose chez les jeunes?
Alors oui, les études démontrent que massivement, c'est les filles qui sont concernées par les questions de violence et notamment les questions de violence sexuelle. Après, il est bon aussi de rappeler que toute personne peut être victime de violence. Les garçons, ça peut également être le cas. Et puis, les jeunes LGBTIQ+, qui sont des populations particulièrement vulnérables parce que non seulement il faut pouvoir réussir à parler de la violence, mais également de parler du contexte dans lequel ça puisse s'exprimer et de devoir peut-être faire un coming out avec la peur d'être rejeté aussi sur ce plan-là.
La violence dans les relations amoureuses, les jeunes relations amoureuses, les premières relations quand on est jeune, c'est le thème de notre guichet avec nos deux invités, un conseiller et une conseillère en santé sexuelle, Alain Léo Pfammatter et Chloé Parra. Et avec vous, on attend bien sûr vos questions, vos remarques, vos témoignages,
vos inquiétudes, les parents,
par exemple, comment inculquer finalement les bons comportements, les bonnes valeurs à ses enfants. Faites-le au 0800 108 208 ou par vocal au 076 206 12 12. Vous avez, allez, 43 minutes pour le faire. On est ensemble jusqu'à 10 heures.
On faisait des lance-pierres avec des sacs. On mettait des bouteilles sur les roues de vélo. J'ai une belle famille, mais j'en vis l'autre. J'ai trop peur de vivre, alors je fais plus d'années. On écrivait sur un arbre comme si c'est le nôtre. On s'imaginait sur des vagues, sur un grand navire. Avant y'avait des taches de couleur sur mon tablier. Maintenant y'a que des taches de sombre à cause de la cigarette. Je rentrais des cours avec des cartes, mais c'était pas les miennes. Je les avais volées à mes potes, mais je faisais semblant. Je descendrai jamais, c'est marrant. Je suis trop bien dans ma branche. Je sais qu'ils m'attendent tous en bas. Je descends pas, c'est sûr qu'ils vont me faire du mal. Il faut que j'aille repeindre la grange. Car je déteste sa couleur. Oh, moi je suis soleil. Alors j'ai rien à faire ici. Je m'abîme trop sur moi, ils vont faire un film. Si je continue, c'est sûr que je vais pas réussir. L'aventure du prince, je la raconterai à mon fils. À la base, moi je suis soleil. J'ai des taches de couleur sur mes mains. Je dessine des horreurs à la craie. Alors demain, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Papa, apprends-moi à refermer la scène. Je veux recommencer ma hive, j'ai trop peur de décevoir. Donne-moi la main, j'ai trop peur d'être sur la scène. Je suis trop naïf, on m'a promis que je serai roi. Je me fais du mal, mais j'arrive à prendre soin d'elle. Toi je te déteste, je l'imite bien, je le dis comme elle. Je regarde mon reflet, je me bats contre moi-même. Alors qu'à la base, moi je suis soleil, prince de la ville. Soleil. Alcoolique sur un banc pour insulter les alcooliques. Ils font la même chose que moi. Je sais que ça t'a mis en colère. La dernière fois je l'ai fait croire que j'ai battu un ours polaire avec mes mains. Enfin j'y crois quand j'ai de l'herbe. Moi je suis soleil. Moi je veux pleurer mais j'ai trop peur qu'on me voit. Alors je dis que c'est le pollen. Alors moi je suis soleil. Suis le soleil. Princesse. Moi je suis soleil.
Il s'appelle Assiel, jeune artiste de Renan qui connaît un succès fulgurant, un artiste repéré par Radar RTS. Il est 9h20 sur RTS Première.
Le guichet dont on en parle. 0800 108 208.
Un guichet consacré ce matin aux jeunes et à la violence de couple. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Chloé Parra, conseillère en santé sexuelle et répondante pour Ciao.ch et Ontécoute.ch, et Alain Léo Pfammatter, conseiller en santé sexuelle chez Profa, et avec Muriel Mera qui a plein de questions en fait à poser à nos invités.
J'ai plein de questions, et comme on a commencé à aborder le sujet tout à l'heure, je trouve que c'est pas mal qu'on pose les bases par rapport au consentement. Hein, donc la campagne de prévention du canton de Vaud met vraiment l'accent sur cette notion-là, sur le consentement sexuel. Donc sans consentement, c'est non. Mais comment expliquer le consentement à un adolescent ou à une adolescente, Alain Léo Pfammatter?
Alors effectivement, quand on parle du non, on se réfère finalement à une définition au niveau pénal. À ce niveau-là, c'est le non, c'est non. Mais c'est pas forcément aidant pour un jeune de comprendre comment est-ce que je décode tout ça. Donc, ce qu'il faut rechercher dans une définition qui serait plus de l'ordre du relationnel, c'est d'aller chercher un oui explicite chez l'autre. Donc, ça va passer par de la communication, et ce oui, il va devoir être enthousiasme, c'est-à-dire qu'on doit être une personne qui va être claire dans son son positionnement. Ça doit être un oui qui permet, en fait, qu'il y ait une spontanéité. Il doit y avoir une notion aussi qui est intéressante, je trouve, c'est d'être gagnant-gagnant. Si on dit oui, est-ce que les deux dans cette situation sont gagnants? Et puis, c'est un oui qui va s'exercer ici, maintenant, dans cette situation-là, dans l'interaction de ce qu'on doit faire. Donc, c'est un processus qui doit toujours être contrôlé. Donc, on est très loin d'une notion de contrat où on a dit oui, et finalement, on a dit oui à tout.
Et pour tout le temps, quoi.
Et pour tout le temps. Mmh. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit oui, par exemple, je suis d'accord de t'embrasser, que ça veut dire que je suis d'accord aussi de coucher avec toi derrière. Donc, c'est toujours ces aspects-là à pouvoir vérifier, communiquer et pouvoir mettre en mots. Mais des fois, les mots ne sont pas suffisants. Et des fois, on va l'exprimer par le corps. Et c'est tout ce décodage-là qui est nécessaire à apprendre. Mais les gens ont la capacité de pouvoir le faire.
Chloé Parra ?
Oui, on dit aussi que le consentement, il doit être libre. C'est-à-dire que si le consentement, il est obtenu après des pressions ou parce qu'on a essayé de convaincre la personne, c'est pas du consentement. Donc, c'est pas une négociation pour obtenir ce que je veux. Hein. C'est vraiment une écoute entre deux personnes qui sont d'accord de faire ce qu'elles ont envie au moment où elles en ont envie.
Mais comment on inculque ça aux jeunes? Comment on leur fait comprendre ça? Parce que pour nous, ça paraît très évident pour les adultes, mais les jeunes, comment ils peuvent justement intégrer, disons, ce que c'est que cette notion de consentement.
Et puis de l'expliciter, parce qu'entre jeunes, tout d'un coup, de se mettre à parler de...
Oui, on va pas
est-ce
commencer...
que t'es d'accord oui. que je fasse ci,
on va commencer à parlementer enfin, dans des moments
enfin,
un peu
ça
plus...
Ça peut être très très gênant oui. aussi.
Le consentement, ça commence depuis tout jeune. C'est pas seulement dans la sexualité. Hein, quand oui. on peut être... un exemple qui me vient en tête, si on force son enfant à embrasser mamie alors qu'il ne le veut pas, peut-être qu'on lui floute déjà certaines limites. Il y a la politesse, c'est dire bonjour aux personnes qu'on rencontre, mais peut-être que l'obliger à faire quelque chose avec son corps, ce n'est pas la bonne piste. Et puis le consentement, on l'exerce dans plein d'autres domaines de la vie. Hein. On a cette vidéo de la tasse de thé que peut-être vous connaissez.
Qui est géniale, oui.
Hein,
alors racontez-nous, moi je ne la connais pas.
qu'on trouve sur YouTube maintenant.
J'ai failli il apprendre pour la faire écouter, effectivement. Allez-y, racontez.
C'est ça, l'idée, c'est que si on propose une tasse de thé à une personne, on va accepter. Si elle nous dit non, on ne va pas lui forcer à boire la tasse de thé. Ça paraît complètement incohérent et pas imaginable.
Pas adéquat, ouais.
Et si elle s'endort, on ne va pas lui ouvrir la bouche pour lui
exactement,
mettre de force
pour lui
du
verser
dans
le,
la bouche.
Le thé de force. Et en sexualité, c'est pareil.
Mm-hmm. Alain Léo Pfammetter, vous voulez réagir?
Oui, je pense qu'aussi ça part dans la petite enfance sur la question d'apprendre aux jeunes à s'approprier leur corps. Donc ça passe par le vocabulaire, on apprend à nommer les différentes parties du corps et mon corps m'appartient. Donc on peut décoder à partir de là les gestes qui sont OK, les gestes qui font du bien, les gestes qui mettent mal à l'aise et d'apprendre à pouvoir se positionner à ce niveau-là. Et par exemple, l'exemple de Chloé, c'est un bon exemple. Si le bec de mamie me pique et me dérange, eh bien, effectivement, je peux l'exprimer et ça peut être entendu. Puis ensuite, c'est comment, ben, quand on grandit dans cette interaction-là, on apprend à communiquer avec l'autre avec ses mêmes compétences, de dire quelles sont mes limites, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas.
Et justement, quand on n'arrive pas à sentir nos limites et qu'on dit oui, mais que dans le fond, on aurait plutôt envie de dire non, une fois qu'on l'a réalisé, on fait quoi de ça? Et puis comment on apprend à après pouvoir vraiment dire non quand c'est non?
Alors là, c'est l'expérience de la vie. Hein. Il y a plein de choses qu'on va vivre, qu'on n'aurait pas voulu vivre et qu'on va peut-être regretter d'avoir les avoir vécues. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, d'une certaine façon, faut pas se culpabiliser de pas avoir réussi peut-être à s'exprimer correctement, d'avoir mal été compris. À ce moment-là, c'est reprendre, dire bon, qu'est-ce qui a pas fonctionné dans ce moment-là? Comment j'aurais pu faire les choses autrement? Et puis, on peut chercher de l'aide à ce moment-là avec un adulte de confiance ou avec un professionnel pour aussi décoder ce qui s'est passé. Parce que des fois, on a juste un sentiment flou de dire il y a quelque chose qui n'était pas correct, que je me sens pas forcément bien. Et c'est peut-être utile d'avoir quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre de la distance et puis pouvoir poser les bons mots sur ce qui est arrivé.
Chloé Parra, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, ben, comme le disait Alain, le développement de ses compétences psychosociales, le savoir identifier ses émotions, savoir poser ses limites, c'est super important. Et parfois, malheureusement, ça se passe un peu tard dans la vie. Mais ça montre aussi l'importance dans le consentement de l'écoute aussi, c'est-à-dire que on est responsable de poser ses limites, mais ça veut dire que de l'autre côté, il doit y avoir une écoute de la part de la partenaire, c'est-à-dire que si la personne n'est pas du tout sensible aux manières dont on interagit, dont on se comporte, pas seulement dans le verbal, mais aussi dans le non-verbal, ça peut pas se passer bien. Donc le consentement, c'est à la fois s'exprimer, mais aussi écouter.
Alors justement, quels signaux indiquent que la personne n'est pas d'accord ? De l'autre côté, donc, comment on peut reconnaître finalement qu'il n'y a pas vraiment consentement ?
Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une absence de communication. On a ces compétences pour pouvoir les décoder, donc des fois, il y a des personnes qui se disent « mais moi, je ne vais jamais y arriver ». Mais en fait, quand on a une personne en face de soi dont le regard fuit, il y aura un soupir, on peut sentir même des fois l'impression qu'elle n'est pas là. On doit s'arrêter à ce moment-là, prendre du recul et puis me dire « mais écoute, je te sens ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu veux qu'on arrête ?» On arrête. Et puis, pouvoir commencer à poser des mots là-dessus. Et puis, on peut avoir la situation où on a carrément la personne qui est en état de tétanie, c'est la sidération, où là, on n'a vraiment pas réussi à décoder quoi que ce soit, peut-être dès le départ, parce qu'on était trop centré sur soi-même, et qu'à ce moment-là, effectivement, il faut pouvoir s'arrêter, parce que d'un point de vue pénal, on peut s'attirer des soucis si on a mal décodé.
C'est ça, c'est la question que je voulais poser. Quand on parle de consentement sexuel, s'il n'y a pas consentement, il y a viol.
Il y a viol, effectivement, dans ces questions-là. Alors, il y a toute une question aussi de comment les choses arrivent à ce niveau-là. Si je peux vous donner, par exemple, un exemple, on peut se retrouver avec des personnes qui n'étaient pas forcément peut-être consentantes à un rapport sexuel et puis qu'on n'est pas forcément dans une notion de viol. On imagine une personne qui se retrouve une journée difficile, je rentre à la maison, je suis de mauvaise humeur, j'explique, passé une très mauvaise journée, la partenaire dit, bon, on va peut-être avoir un rapport sexuel, comme ça va lui changer les idées, j'ai pas trop envie, mais j'y vais. L'autre en face dit, j'ai pas du tout envie, mais bon, si j'ai pas envie de me ramasser encore une dispute de plus en disant non. Et on se retrouve avec deux personnes, finalement, qui n'avaient pas forcément envie d'un rapport sexuel et qui ont un rapport sexuel. Donc là, on n'est pas forcément dans du pénal non plus. Donc, il y a des situations qui prêtent à question. Et il y a des situations, effectivement, où c'est de l'expérience de vie. Donc, c'est toujours important de pouvoir réussir à les décoder. Et si on a un doute, il y a nos collègues de la vie qui sont présents pour pouvoir aussi vous permettre de poser les bons mots sur ce qui est arrivé et dire effectivement ça relève du pénal ou pas.
9h30 sur RTS Première, vous écoutez le guichet dont on parle. On est à peu près à la mi-temps de ce guichet et on attend donc vos questions, vos remarques. N'hésitez pas à nous appeler. Le standard est plutôt calme pour l'instant.
Donc c'est un sujet sensible, donc c'est compliqué.
C'est un sujet
sensible,
mais on peut garantir votre anonymat. Donc n'hésitez pas, 0800 108 208 ou un vocal au 076 206 12 12. Si vous préférez l'écrit, vu que, comme le disait Muriel, ce sujet est sensible, vous pouvez aussi nous envoyer un email à onenparle@rts.ch.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça, je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. plus que ceux des autres. Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes. Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Ah bon, on parlait de consentement tout à l'heure, ben voilà une chanson tout à fait de circonstance. Hein. Angèle, oui ou non? On parle effectivement de relations entre, de relations de couple, hein, jeunes et violences de couple, hein, les premières relations amoureuses qui peuvent être justement émaillées de violences de toutes sortes. Hein. C'est pas forcément de la violence physique. Et nous sommes en compagnie des deux invités de Muriel Mera, Alain Léo Pfammater, conseiller en santé sexuelle chez Profa, et Chloé Parra, conseillère en santé sexuelle chez Tchao, pour Tchao.ch et ontécoute.ch. Et vous savez qu'à la RTS, depuis le week-end dernier, week-end donc porte ouverte, on a pas mal de visites d'auditrices, auditeurs, de personnes qui viennent comme ça nous visiter dans les studios. Et donc ce matin, on accueille Lilia. Bonjour Lilia.
Bonjour Philippe.
Qui a donc une question à poser à nos deux invités.
Oui, effectivement. Alors moi, je suis jeune, hein, j'ai 19 ans, donc je suis un peu dans la tranche des jeunes et tout ça, et on a le numérique qui est là, on a les réseaux sociaux. Alors finalement, quelle est la part du numérique aujourd'hui, des réseaux sociaux dans les violences de couple? Est-ce que finalement les violences de couple nous suivent en fait partout, 24 heures sur 24?
Alors, le numérique a effectivement un peu changé la donne par rapport au passé. Quand quelque chose se passait à l'extérieur, on rentrait chez soi et puis les choses se terminaient. Et là, on peut se retrouver avec une pression constante qui peut s'exercer 24 heures sur 24, où un partenaire, une partenaire peut envoyer des messages demandant qu'elle soit rappelée, de demandant d'envoyer des photos, de demandant de pouvoir dire avec qui es-tu, et ça peut exercer effectivement une grosse pression et mettre la personne sous emprise. Et ça change la donne, parce que effectivement il n'y a pas un moment où on peut finalement se protéger de ce type de violence là.
C'est pernicieux, c'est de la violence qui est très pernicieuse.
Exactement.
Mais par rapport au réseau, vous évoquiez les photos. Donc il y a des photos ou des vidéos intimes qui peuvent s'échanger en toute entente, hein, entre deux partenaires. Et là, bon, bah voilà, c'est OK, c'est autorisé. Par contre, en cas de rupture, parfois ces photos, par revanche, par frustration, elles se retrouvent sur les réseaux. Quand ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux porter plainte, par exemple, contre la personne qui a diffusé des choses très très intimes?
Oui, si des photos ont été transmise en étant consentant au sein d'un couple, la personne qui va rompre cette confiance en transférant cette photo à d'autres personnes ou sur le net,
avec le nom parfois et même l'adresse,
le nom, hein. Exactement. Eh bien, elle va se retrouver potentiellement avec une plainte pénale qui pourrait être posée contre elle. Donc, c'est important effectivement de pouvoir réagir par rapport à ça. Et c'est des fois aussi important de réfléchir avant de transférer ces photos là. Parce que on peut se retrouver potentiellement dire aujourd'hui tout va bien, mais quelles vont être les conséquences si un jour cette relation elle périclite?
Mais Chloé Parra, ça veut dire que vous donneriez le conseil par exemple à une jeune ou un jeune de ne pas faire de nudes par exemple?
Alors pas forcément de ne pas en faire, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose que les jeunes comme les moins jeunes peuvent aimer faire, et puis qui peut être une pratique aussi tout à fait positive en fait dans le cadre de la relation quand ça reste entre deux personnes. Par contre, effectivement, informer les jeunes des conséquences potentielles aussi de ce qui peut arriver si une photo fuite, tant au niveau des conséquences psychologiques que des conséquences légales. Et donc plutôt donner des conseils de comment le faire plutôt que de ne pas le faire.
Et alors, comment le faire ?
Alors justement, il y a différentes techniques. Par exemple, se prendre en photo sans prendre le visage, sans qu'on soit reconnaissable. Parfois, des techniques de floutage, même si aujourd'hui, avec l'IA, ça devient compliqué parce qu'on peut parfois
Déflouter,
voilà. C'est un nouveau mot. Donc, c'est pas évident, mais en fait, d'interdire ou de conseiller de ne pas faire les choses, c'est souvent pas un conseil qui fonctionne. Donc, on va plutôt essayer d'encadrer pour que ce soit le moins risqué. Ce qui est possible.
0800 108 208 pour intervenir en direct à l'antenne. Et c'est le numéro qu'a composé Michel de Sainte-Croix que nous accueillons maintenant. Bonjour Michel.
Hey, bonjour, comment allez-vous ?
Mais bien, merci.
Alors, intéressante émission, mais désolé, c'est que du blabla.
Pourquoi ?
Là, vous n'êtes que dans du blabla. Pour la bonne et simple raison, toute simple, c'est que les principaux intéressés actuellement sont à l'école, au boulot. Quant aux parents, il y en a qui sont à l'école. On est actuellement dans une hyper-masculinisation qui est véhiculée par ces putains, je m'excuse du terme, de réseaux sociaux. On a de plus en plus de problèmes avec les ados à ce niveau-là. Le pouvoir politique n'est absolument pas intéressé. Là, je l'entends, le pouvoir judiciaire. Bonjour. Allez persuader un ado ou une ado d'aller expliquer ça à la gendarmerie et tout. On oublie. Et en plus de ça, les lenteurs judiciaires sont telles que, voilà. Ce qu'il faudrait, enfin c'est une solution, mais comme je dis, pouvoir politique est absent, c'est carrément à l'école. Puis pas une matinée dans l'année. C'est carrément, ça fait partie de l'éducation. Les parents, faut pas compter dessus. On regarde les parents de cette génération, sont confrontés déjà. Il y a qu'à voir le nombre de féminicides, mais surtout les violences qui ne sont pas déclarées. Donc, l'exemple pour les jeunes des parents, l'exemple qu'ils ont sur les réseaux sociaux, comme je vous dis, des cours, oui, mais pas deux heures dans une matinée. C'est quelque chose de sérieux, ça. Parce que là, on va vers une catastrophe. Il y a peut-être des gamins de 14 ans qui sont déjà dans cette tension, qui connaissent déjà, mais ça va donner quoi ? Donc voilà, c'est joli vos théories, mesdames, messieurs, c'est très bien, vous expliquez les mécanismes et tout, c'est des mécanismes qui ne sont pas écoutables pour la majorité, je dis la plus grande majorité des ados. Voilà.
Merci de votre coup de gueule, Michel. Insuffisant. C'est insuffisant. Ce qu'on fait maintenant, en fait, Alain Léopamateur.
Je voyais hocher la tête aussi, oui. Chloé Parra. Je pense que vous allez réagir tous les deux.
Il faudra en faire plus, notamment dans les écoles, comme le dit Michel.
Alors évidemment, on se rend bien compte qu'il y a des problématiques qui émergent et ça va très vite. C'est un gros souci, les questions sur les théories masculinistes qui émergent sur les réseaux sociaux. On sait qu'avec les algorithmes, les jeunes vont être ciblés très très rapidement par ces théories-là et ils n'entendent que ça. Donc du coup, ils vont se former sur ces notions-là. Il faut pouvoir... Pour changer de façon de penser, il faut pouvoir déconstruire une pensée qui s'est mise en place, que la personne souhaite aussi pour entendre ce discours-là, et puis reconstruire quelque chose qui est sain derrière.
Mais en face, il faut aussi repérer et décoder. C'est quoi les signes qui peuvent nous alerter ?
Par rapport à un jeune qui...
Parce que moi, je le rencontre, ce jeune, mais si j'ai pas les outils pour décoder que potentiellement, est-ce qu'il faut être sensible à un certain vocabulaire, à une certaine attitude qui peut me faire dire « oulala, oups ».
Oui, il va avoir des propos qui vont être par rapport... généralement, c'est par rapport aux femmes qui sont assez claires de pouvoir... qui s'exerce de droit et on n'est pas du tout dans un dialogue où on est dans une relation équitable, consentante ou quoi que ce soit. Donc si on entend ces propos-là, effectivement, en tant qu'adulte, on peut toujours se positionner et puis dire non, c'est pas OK ce que tu racontes. Et après, effectivement, au bout d'un moment, ça va participer au processus, mais moi, je rejoins qu'effectivement, les cours d'éducation sexuelle, il y en a peu. Donc, d'avoir des contrebalancements par rapport aux messages qui sont donnés au sein de l'école, ça peut être largement insuffisant, effectivement. Oui.
Sans compter ce que relève Michel, c'est qu'aussi, enfin, en filigrane, en tout cas, c'est que sur les réseaux sociaux, tout va très, très vite, alors que le temps, justement, de la prévention, de l'éducation et même le temps politique est beaucoup plus long, Chloé Parra.
Oui, c'est juste. Et puis actuellement, il y a aussi effectivement une explosion des comptes masculinistes sur les réseaux sociaux qui sont effectivement très consultés par les jeunes, avec parfois même un vocabulaire très spécifique qui est utilisé, qui rend difficile aussi de détecter, parce que ça peut passer inaperçu, certains termes par les parents qui sont peut-être peu... sensibilisés au fait du vocabulaire qui serait typiquement masculiniste et misogyne.
Mais vous avez des exemples, vous dites que c'est compliqué à les repérer. Ça peut être quoi, une expression qui devrait nous alerter, par exemple ?
Alors, j'ai pas forcément en tête comme ça de vocabulaire très spécifique. Par contre, alors parfois on entend des questions de pilule rouge ou pilule bleue, comme dans le film Matrix, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont dans cette manosphère ou la sphère masculiniste. De manière générale, des fois, juste un discours très banalisé de sexisme sur les femmes, par exemple, sur des comportements attendus des femmes, voilà, l'apparence qu'elle devrait avoir, le comportement qu'elle devrait avoir. Et pareil pour les hommes, hein, un bonhomme, c'est un homme viril. Ça, c'est des choses qui doivent nous alerter et puis nous amener à faire quelque chose.
Et ça peut commencer aussi de façon très anodine. Je vous renvoie à l'excellent témoignage qu'on entendait hier dans la matinale, extrait du podcast Nous Autres, avec un jeune qui, justement, était tombé dans la sphère masculiniste et puis en était ressorti, nous racontait son expérience. Et ça commence justement par des messages plutôt sur, justement, comment muscler son corps ou des blagues qui paraissent anodines. Et puis, petit à petit, ça se radicalise un peu. Voilà, je vous renvoie en tout cas à ce podcast, cet épisode du podcast Nous Autres, produit par la RTS. Et on reçoit des messages à notre standard, Muriel.
Oui, Corinne nous dit « J'ai travaillé en maternité comme infirmière. Quand nous transmettions une abstinence de rapport durant 6 semaines post-accouchement, plusieurs dames ont exprimé que ce ne serait pas possible, qu'ils ne tiendraient pas, et nous demandaient de transmettre nous-mêmes à leur mari cette demande. Il y a même eu une demande que ce soit un homme qui transmette l'info au mari. Je n'ose pas imaginer les fois où le sujet n'a même pas été abordé ou partagé. » Oui, Chloé Parra.
Je travaille aussi en maternité, justement, pour donner des conseils postpartum aux femmes qui ont accouché récemment. Et puis, cette question de la sexualité, elle est souvent abordée par les femmes, pas toujours aussi frontalement que votre auditrice le décrit, mais avec une inquiétude et qui, parfois, laisse songeuse, en fait, sur l'attitude des fois des partenaires ou des femmes qui me disent « Ah, mais moi, j'ai de la chance, il est très compréhensif. » Et c'est ça me surprend toujours d'imaginer que c'est une chance d'avoir un partenaire compréhensif, que c'est considéré comme une chance, alors que c'est la norme. Voilà.
Pour en revenir à cette idée de détection, si on en revient aux personnes plus jeunes, Alain Léo Pfamateur, Profa a développé un outil qui s'appelle la Love Boussole. Ça marche comment, ça?
Alors, c'est un outil pédagogique qui est en forme circulaire avec une gradation des comportements qu'on peut retrouver au sein d'un couple, avec une catégorie verte où c'est les comportements qui sont respectueux, qui sont à valoriser, une partie orange où on est déjà avec des comportements qui vont questionner. On peut retrouver, par exemple, il m'appelle pour savoir où je suis et avec qui, par exemple. Et puis, la zone rouge où là, effectivement, on est dans des notions de violence. La force de l'outil, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Le jeune, la jeune ou moins jeune qui va se retrouver avec cet outil-là va pouvoir se projeter dans qu'est-ce que je vis dans ma relation, où est-ce que je me situe, quels sont les comportements qui s'exercent au sein de mon couple dans cette love boussole, et puis peut-être d'avoir l'impression que finalement je me retrouve pas mal dans le orange alors que je pensais plutôt que j'étais dans le faire, parce qu'on avait intégré une sorte de banalisation finalement de ces comportements-là. La jalousie, c'est normal, c'est bien, il m'aime, etc. Et on peut intégrer ces notions-là et là d'avoir finalement cet outil permet de reprendre du recul, prendre de la distance et se dire peut-être que ce que je vis, c'est pas correct.
Ou alors, à l'inverse, de dire bah, « c'est n'importe quoi cette boussole » et de ne pas en tenir compte, parce qu'il y a souvent le déni aussi.
Alors, il peut y avoir également ça, des personnes qui, pour elles, le plus important, c'est de maintenir le couple. On peut avoir une problématique de congruence. C'est important pour chaque personne que ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens, ce soit aligné. Quand on a une incongruence, c'est-à-dire, par exemple, ce que je vis au sein de mon couple, les comportements qui sont en place sont malveillants, c'est plus simple de changer finalement, c'est plus économique de changer finalement sa façon de penser. Donc, plutôt que de se dire, ben je pars, je quitte cette relation, ou bien je me défends, je vais chercher de l'aide, je mets un grand nom à ce qui m'arrive. Donc, les gens, des fois, ont tendance, et on l'a tous fait sur des choses plus ou moins anodines, on va changer simplement sa façon de penser en disant, mais finalement, c'est pas si grave que ça.
Alain Léaupe, Famateur, conseiller en santé sexuelle chez Profa, aux côtés de Chloé Parra, conseillère en santé sexuelle pour Ciao.ch et OnTécoute.ch. Et on n'a plus qu'une douzaine de minutes pour accueillir encore vos remarques, vos questions à nos deux invités sur les problèmes de couple chez les jeunes. Vous pouvez donc nous atteindre au 0800 108 208 ou nous envoyer un vocal au 076 206 12 12. Le portoricain le plus écouté au monde, Bad Bunny avec Baile Inolvidable. 9h51, vous écoutez Le Guichet dont on parle, consacré ce matin aux jeunes et à la violence dans le couple, avec deux invités, Chloé Parra, conseillère en santé sexuelle et répondante pour Ciao.ch et Ontécoute.ch, et Alain Léo Pfammatter, excusez-moi, j'accourcis toujours votre nom, Alain Léo Pfammatter, conseiller en santé sexuelle chez Profa. Et des messages que nous avons reçus à notre standard, Muriel.
Oui, Anna s'interroge. Pourquoi les hommes ont beaucoup de mal à se saisir de ces questions de violence contre les femmes et les enfants? Elle prend en exemple le procès de Mazan ou certaines marches qui rassemblent principalement des femmes et des féministes. Voilà. Anna a l'impression que ce blocage fait que les violences ne peuvent pas être prises en considération à juste titre, puisque la moitié de la population se sent presque attaquée lorsqu'on aborde le problème avec le fameux « not all men ». Est-ce que vous avez des pistes pour justement sensibiliser les hommes en disant « mais ça vous concerne aussi » Chloé Parra, je vois que vous hochez la tête.
Oui, c'est une question récurrente dans les milieux féministes et chez les personnes qui s'intéressent aux violences de genre et aux violences sexuelles. C'est vrai que dès qu'on évoque le phénomène des violences et le fait que les violences sont en grande majorité le fait d'auteurs hommes, masculins, il y a tout de suite un sentiment de réaction, parce que les personnes qui ne se considèrent pas auteurs de violences, les hommes qui ne sont pas auteurs de violences ou pensent ne pas l'être, se sentent attaqués, comme si ils étaient attaqués personnellement, ce qui n'est pas le cas, mais probablement que le fait de se sentir faire partie d'un groupe qui est auteur de violence et qui les met plus à risque, en fait, il faut le dire, d'être auteur de violence, c'est compliqué à voir en face.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les hommes? Ben vous, Alain Léo Pfammatter, vous êtes un homme, a priori, vous êtes sensibilisé à la cause. Comment on peut faire pour que les hommes se sentent plus concernés?
Alors,
et déjà... pas agressés?
Oui, voilà. Donc la question, c'est de se rendre compte qu'on fait partie d'un groupe qui est privilégié du fait d'être un homme blanc, par exemple. On a des avantages à ce niveau-là. Le fait qu'une autre partie de la population est péjorée à ce niveau-là sur la question des violences ne remet pas en question finalement qui je suis en soi. Donc l'importance à ce niveau-là, ça va être de voir et de reconnaître, c'est aussi ça, on parlait avant de quand on une personne victime de violence parle, il faut pouvoir l'entendre et la croire sur ces questions-là. Donc c'est reconnaître ces aspects-là et se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'allié dans cette question-là? C'est pas simplement se dire, moi, je me dégage de cette responsabilité-là parce que moi, j'ai rien à le faire. Donc là, on entretient finalement la question de la banalisation. On peut aussi entretenir la culture du viol en disant, mais finalement, c'est toujours dans des situations extrêmes qui n'existent pas dans mon environnement. C'est peut-être intéressant d'aller poser la question à sa sœur, d'aller poser la question à sa mère, d'aller poser la question à ses amis. T'as vécu quoi comme violence? Est-ce que tu peux m'en parler? Et que là, on se rend compte finalement de cette réalité-là. Je pense que pour se sentir impliqué, il faut aller se confronter peut-être à des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, mais il faut avoir ce courage-là d'aller poser la question et de se rendre compte qu'on aura beaucoup de personnes qui vont nous dire « oui, moi j'ai vécu des violences ». Et d'en prendre conscience et puis de se dire, ben, moi maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir améliorer la situation?
On reçoit des messages. Rosanna nous dit, j'ai un enfant de 12 ans, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est un rapport sexuel, mais comment lui donner les bonnes informations en tant que parent? C'est quand même un sujet délicat à aborder avec son enfant. J'aimerais qu'il soit protégé et qu'il n'apprenne pas les mauvais comportements à l'extérieur de la maison. Comment faire, Chloé Parra, pour parler à son ado de 12 ans de relations sexuelles? Ça peut être gênant.
Ça peut être gênant, ouais. Tout le monde n'est pas à l'aise de parler de sexualité et d'intimité. On n'est pas obligé d'être frontal avec son ado ou d'anticiper ses besoins. On peut aussi attendre que des questions viennent. Ça, c'est aussi une possibilité. On peut laisser traîner des bouquins, par exemple, voilà, sur la table basse ou comme ça.
Mais comment montrer qu'on est disponible à la discussion?
Et on peut aussi le dire en disant, pas en posant des questions, pas en étant intrusif, mais simplement en disant, voilà, que...
Au besoin.
Au besoin, je suis là, je sais qu'il y a différentes thématiques qui pourraient l'intéresser dans les années à venir, et que moi je suis toujours disponible pour en parler, que je suis à l'écoute, et puis peut-être lui donner aussi d'autres ressources, qu'on ne soit pas la seule personne à qui le jeune va vouloir parler s'il a envie de parler de sexualité, de relations amoureuses, de flirt, mais peut-être lui donner les adresses des centres de santé sexuelle où il va être accueilli de manière confidentielle et où il ne va pas être obligé d'en parler à sa maman ou son papa.
Qui est un mini coup de gueule à transmettre. Non, c'est rigolo. C'est Ariane qui nous dit, bon bah voilà, que déjà elle trouve que nos émissions sont intéressantes, on la remercie, mais elle revient sur l'exemple qu'on a donné quand on parlait du consentement pour les enfants. Et elle dit, ok, vous avez parlé du bec qu'on colle sur la joue de mamie sans avoir envie, ce serait sympa d'inclure les papy, parce que les mamies en ont marre de toujours servir d'exemple par défaut.
Ces dames sont fatiguées de toujours servir de référence par défaut, nous dit Ariane. Ben, merci pour ce message. Et puis on a encore le temps pour un autre message, mais qui rejoint finalement ce que nous disait Michel de Sainte-Croix au téléphone. Hein. C'est une auditrice qui nous dit, les ados sont de plus en plus la cible de ces réseaux masculinistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer par l'école de faire de l'éducation affective pour essayer de cadrer hein, tout ce qui peut être dit sur Internet. Voilà, je crois qu'on a déjà bien parlé de
donc
tout ça.
Donc plutôt qu'une éducation sexuelle, c'est axé plus sur les relations, sur les sentiments et la vie affective, en fait, c'est ça.
Alors l'éducation sexuelle parle aussi de tout l'aspect relationnel. Hein. C'est pas que...
Ça inclut, en fait, quand on parle d'éducation sexuelle, c'est pas que le côté physique.
C'est une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais c'est vrai que le raccourci donne l'impression qu'on va parler uniquement de sexualité, alors qu'en fait, c'est aussi toutes les compétences... voilà, psychosocial, de ressentir ses émotions, les identifier, parler de relations et pas uniquement de sexualité.
Voilà. Alors, encore un petit message de Corinne de Genève qui nous dit « Ça commence à me gonfler, ces émissions anti-hommes. Et il y a aussi des femmes qui sont violentes hein, et rien n'est fait pour les enfants. La justice ne fait rien pour les enfants. Les femmes deviennent intouchables. » Voilà ce que nous dit aussi Corinne. Alors, ce sera peut-être l'occasion de poursuivre dans un autre guichet hein, sur la violence des femmes.
Mais en tout cas, le pourcentage est quand même clair. Hein. La majorité des auteurs sont des hommes, et ça, c'est important de le redire quand même. Et ça, c'est statistique.
Voilà. Mais je voulais quand même relayer le message de Corinne pour être tout à fait complet. Merci beaucoup à nos deux invités, Chloé Parra, conseillère en santé sexuelle répondante pour Tchao.ch et ontécoute.ch. Et puis Alain Léo Pfamateur, conseiller en santé sexuelle chez Profa. Une bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et demain, autre guichet, alors ce sera plus léger, on parlera patois. On parlera les patois, ouais, oui, les patois régionaux.
C'est qu'elle est nous.
Oui, par exemple.